Alors, je sais pas pourquoi, mais au début, ça a coupé. Mais j'étais en train de parler du fait que j'ai envie de reprendre le sport et que j'essaie de m'organiser du mieux que je peux. Donc, voilà. C'est le contexte. Et deuxième chose, j'ai enregistré l'épisode avant le match France-Pays de Galles. Donc, c'est pour ça que je suis en train de parler du match au passé, alors que j'ai sorti l'épisode après le match. Et on a gagné 43-0. Voilà. Bisous.
Je suis en train d'essayer de m'organiser une petite séance, enfin une petite séance, une petite organisation dans la semaine parce que bah j'ai la fac et il faut que je puisse caler des séances la semaine, ce qui est compliqué. Voilà. Faut que je trouve un moyen, je sais pas comment faire. Parce que bah j'ai cours quasiment tous les jours. En vrai, je pourrais aller vendredi matin. Là, je fais mon organisation avec vous. Voilà. Je pourrais aller vendredi matin, à part certains jours, on va dire. Je pourrais aller lundi après-midi. Si je rentre pas trop tard, et si je fais pas non plus des bêtises à Châtelet, parce que généralement mes potes, elles m'influencent pour aller à Châtelet, ça c'est dur de refuser, c'est dur de dire non. Je pourrais aller le week-end aussi, le week-end, mais il faut que j'y aille tôt, parce que le week-end ça ferme tôt, et bon, je vais voir avec moi-même. C'est toujours dur les reprises, hein. C'est dur, hein. Ça fait très longtemps que je suis pas allée en plus, hein. Mais j'ai envie un peu de me remettre en forme, j'ai un peu l'air molle ces derniers temps, donc j'ai un peu envie de me rebooster et j'ai pas envie de tomber aussi dans une routine où bah, quand j'ai rien à faire bah je fais juste rien. Après je pourrais travailler aussi mais ça c'est autre chose. Genre le sport ne va pas me prendre toute ma journée donc bon. Bref pourquoi on parle de ça là? On est là pour faire Oh, c'est pas pour ça qu'on est là. Pitié. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde, bonjour à vous toutes et tous. Aujourd'hui on est là pour un nouveau format. Voilà, un nouveau format j'ai eu l'idée vraiment hier parce que j'arrivais pas à dormir et quand j'arrive pas à dormir je réfléchis beaucoup et j'ai eu cette petite idée. En vrai, c'est une idée que j'ai depuis longtemps, c'est juste que j'essaie de la mettre en place depuis quelque temps. Et là, il s'est tellement passé de choses que je me suis dit, c'est le bon moment pour la mettre en place. Donc, je vais vous présenter ça dans un instant. Faut juste que je retrouve mes notes. Elles sont là. Alors, bonjour à vous. J'espère que ça va. Peu importe à quel moment de la journée vous écoutez cet épisode. J'espère que votre journée s'est bien passée. J'espère que vous allez passer une bonne journée. En tout cas, je vous souhaite attraper quelque chose à manger si vous le pouvez. Si vous êtes dans le métro, bon. En vrai, qui mange en vrai, je crois que je l'ai déjà fait. J'ai déjà mangé dans le métro. Je mangeais des chips. Ouais. Vous savez que je ne peux plus dire chips, normalement je dis des chips. C'est fini maintenant. Mais je crois que c'est une rêve TikTok, mais je sais plus. Mais en tout cas, ça cause ma pote. Je dis des chips. Si vous pouvez pas manger, c'est pas grave, écoutez juste. C'est pas grave, marchez, allez là où vous devez aller, et puis voilà. Et ne vous perdez pas. Parce que, quoique, si vous vous perdez dans votre chemin de routine. C'est un peu inquiétant quand même. Bref, aujourd'hui, on va parler sport. Voilà, c'est un épisode spécial sport. Mais c'est pas un sport en particulier, c'est des news dans le monde du sport qui m'ont marqué. Après, moi, je suis disclaimer, je suis pas adepte de tous les sports. Je suis surtout adepte du foot et un peu du rugby. Donc, je vais surtout parler de ça. Après, si un jour il y a une news d'un autre sport qui m'attire. On va prendre ça, on va en parler, il n'y a pas de problème. Et si on discrimine pas, et si on dit une ombre en tout, et si on est gourmand. Alors, programme du jour. On va parler de la Coupe d'Europe, des Coupes d'Europe, parce que il y a eu la Ligue des Champions. Ah oui, ça c'est du foot par contre. Ah ouais, comment son programme ne précise même pas le sport. Donc là, c'est du foot. On va parler des Coupes d'Europe, parce que ces deux derniers jours-là, ils étaient intenses. On va parler de la Ligue des Champions, on va parler de la Ligue Europa, on va parler. En fait, on va parler du nouveau format des Coupes d'Europe qui a été mis en place début de la saison, au début de sa saison. Et comme c'est un peu compliqué à comprendre, et puis comme on découvre un peu tous, que ce soit les journalistes ou même nous les spectateurs, comme on découvre un peu tous, je me suis dit, je vais essayer d'expliquer le nouveau format de la Ligue des Champions. C'est vraiment un champion. C'est vraiment un format qui n'est pas facile à comprendre. Mais en fait, ces deux derniers jours, on a tellement vécu des soirées absolument historique. J'ai jamais autant halluciné devant du sport depuis les Jeux Olympiques là de cet été. C'était n'importe quoi. Donc bon, j'ai envie d'en parler et je vais essayer d'expliquer ça du mieux que je peux avec mes mots et avec mon vocabulaire qui me caractérise là. Voilà. Ensuite, on va parler de Ligue 1. Voilà, on est toujours dans le foot et on va parler du limogeage de Pierre Sage et du recrutement de Paulo Fonseca du coup à sa place. Parce qu'il y en a des choses à dire. Hein. Mon Dieu. Textor, aujourd'hui, je vais t'attraper ta veste. Ce sera ta fête aujourd'hui. Et On va parler aussi de Giorgio Sampaoli, parce qu'il y en a aussi des choses à dire, et de Mehdi Benatia. Voilà. Je vais vous expliquer un peu qui sont ces gens. Vous allez voir, c'est la zizanie là dans la Ligue 1 là, c'est un peu la zizanie. On va parler de la CAN 2025 qui arrive à grands pas, qui arrive en fin d'année en décembre là 2025. Ça va être n'importe quoi. Ceux qui ont regardé la CAN 2024, vous savez, d'accord. On va parler des poules. Plus précisément, j'ai envie de me concentrer sur la poule de l'Algérie parce que c'est mon pays. Voilà, je vais le suivre. Mais on va parler aussi d'autres choses. On va parler peut-être aussi de la poule de la Côte d'Ivoire. On va parler de l'organisation aussi autour de la CAN au Maroc. On va parler quoi ? On va parler beaucoup. Ensuite, et enfin, non, pardon, enfin, dernière thématique, ça fait quand même déjà beaucoup. On va parler des destinations. Voilà, les destinations qui commencent ce soir, car au moment où j'enregistre, on est vendredi 31 janvier. Et ce soir, il y a les destinations qui commencent avec le premier match de la compétition, à savoir France-Pays de Galles. Voilà. Et on va parler un peu des nombreux choix. Enfin, des décisions un peu. Problématique, à mes yeux, polémique, discutable, de Fabien Galthié, a.k.a. le sélectionneur de l'équipe de France, et de l'adversité. Si on a des chances, est-ce qu'on peut gagner les Six Nations cette année, parce qu'il y a le retour de certains joueurs qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On va parler de tout ça. Accrochez-vous, franchement dingue. On va commencer donc avec les Coupes d'Europe de foot. Voilà, qui sont très compliquées. Je ne parlerai pas d'ailleurs, je tiens à préciser, je ne parlerai pas des Coupes d'Europe au rugby. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, leur organisation part en cacahuète. Moi, ça m'énerve. Voilà. D'ailleurs, le rugby, il va falloir qu'on en parle là, des nouvelles règles qui pop à gauche, à droite. On va parler de toute façon, on va en parler quand on va parler des destinations. Parlons de la Ligue des Champions, merde. Oh là là, tu me dissipes à chaque fois là dans mes trucs. Parlons de la Ligue des Champions. Parce que ce que j'ai vécu il y a deux jours. Non. Il y a personne qui pourra refaire. C'était n'importe quoi. Alors, pour vous mettre en contexte, il y a deux jours, et même hier, il y a eu ce qu'on appelle un multiplex géant. Parce que, alors, habituellement, normalement, en Ligue des Champions, il y a deux multiplex. Enfin, habituellement, avec le nouveau format, on va dire, il y a deux multiplex. Il y a un multiplex le mardi et un le mercredi, et les deux ont 8 matchs chacun. Mais je vais pas commencer par partir dans des explications un peu saugrenues, là. Je vais d'abord vous expliquer le nouveau format de la Ligue des Champions actuelle, là. Est-ce que je devrais expliquer c'est quoi la Ligue des Champions ? Il y en a, c'est vrai, qui savent pas ce que c'est la Ligue des Champions. Grosso modo, c'est juste une Coupe d'Europe des clubs. Voilà. C'est les meilleurs clubs d'Europe qui s'affrontent et qui, à la fin, remportent un trophée. Et c'est considéré comme l'une des compétitions les plus compliquées. Voilà. C'est le trophée le plus... l'un des trophées les plus compliqués à gagner.
Parce que c'est littéralement les meilleurs clubs d'Europe qui s'affrontent.
Et c'est très compliqué. En France, on n'a qu'une seule Coupe d'Europe. On n'a qu'une seule Ligue des Champions à notre dos, à notre palmarès. Je sais pas comment ça se dit, mais on n'a qu'une seule Coupe d'Europe. Et devinez, elle est où ? Je pense que vous le savez, là. À force de faire les forceurs. Je pense que vous le savez. Évidemment, elle est à Marseille. Voilà. Et la seule Coupe d'Europe française, c'est Marseille, en 93. Enfin, non, la finale n'était pas à Marseille. Mais elle a été remportée par l'Olympique de Marseille en 1993. Et c'est la seule Coupe d'Europe française. Il n'y a pas eu d'autres. Pas Coupe d'Europe. La seule Ligue des Champions. Parce que les Coupes d'Europe, il y en a eu. Mais c'est la seule Ligue des Champions en France. Sachant que la Ligue des Champions, c'est vraiment la coupe ultime pour tous les clubs en Europe. Je vais vous faire une petite comparaison avec l'ancien format, donc le format avant la saison 2024-2025, et celui actuel. Donc en gros, avant 2024-2025, il y avait une phase de groupe, qui est toujours actuelle, il y a toujours une phase de groupe, mais elle était organisée d'une autre manière. Donc la phase de groupe avant 2024-2025, elle était composée de 8 groupes. Alors attendez. Je vous conseille de prendre un stylo et une feuille pour noter. Il y a beaucoup d'infos. Voilà. C'est un conseil que je vous donne parce qu'il y aura beaucoup d'infos et si vous n'êtes pas familier avec tout ça, ça peut être un peu trop d'infos. Je vais essayer vraiment d'être le plus simple possible parce que je sais que même moi, ce genre d'explication, j'ai pris du temps à comprendre, d'accord. Il m'a fallu que je regarde la Ligue des Champions en elle-même pour comprendre le format. La phase de groupe avant 2024-2025, elle était composée de 8 groupes de 4 équipes. Il y avait 8 groupes de 4 équipes, donc il y avait 32 équipes au total. Chaque équipe, elle jouait 6 matchs, donc 3 à domicile, donc dans leur stade, et 3 à l'extérieur, donc dans le stade des adversaires. Et pour qu'une équipe se qualifie en 8e de finale, donc sauter les 16e, c'est les barrages, c'est en gros pour... c'est une sorte de seconde chance pour se qualifier au 8e, là. Il faut obligatoirement finir dans les deux premiers du groupe. Sinon, c'est compliqué. Après, bah, c'est un peu la suite, quoi. Les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, etc., etc. Donc, c'est des matchs aller-retour, quoi. Tu joues un match dans tel stade à l'aller, et au retour, tu joues ailleurs, quoi. C'est banal. Maintenant, le nouveau format. Au lieu qu'il y ait les plusieurs groupes, les huit groupes de quatre équipes, il y a un seul groupe de 36 équipes. En fait, visualisez ça comme un gros championnat, on va dire. Vous voyez, un gros classement. Visualisez ça comme un gros classement d'un championnat. Voilà, c'est ça. Il y a un seul groupe avec... C'est un classement de 36 équipes. Voilà, visualisez ça comme ça. Donc, on va commencer. Stylo, feuille, tout ça. La différence, elle rentre maintenant. C'est-à-dire que avant, les équipes jouaient 6 matchs contre 6 adversaires différents. Là, maintenant, c'est différent. C'est 8 matchs contre 8 adversaires différents. C'est logique puisqu'il y a plus d'équipes, donc ça, il y aura plus de matchs, c'est logique. Donc comment fonctionnent les qualifications? De la première place jusqu'à la huitième place, donc les huit premiers se qualifient directement pour les huitièmes. Ensuite, il y a les équipes classées de la 9e à la 24e et eux, ils jouent les barrages pour obtenir une place en 8e de finale. Et les 12 derniers, c'est ciao! Il n'y a pas de seconde chance pour eux, ils sont directement éliminés. Attendez, je crois qu'il y a un truc où je me suis trompée. Dans l'ancien format, je crois qu'il n'y avait pas de barrage. Si je dis pas de bêtises, ça se trouve, je dis des bêtises. Hein. Ma mémoire me joue des tours. Mais je crois qu'il n'y avait pas de barrage pour les huitièmes de finale et que les barrages en 16e, là, pour accéder aux huitièmes de finale, elles ont été ajoutées pour ce format-là. J'espère que ça a été assez clair. J'ai vraiment fait du mieux que je pouvais pour être la plus concise possible. Et voilà, j'espère vous n'êtes pas trop perdu là, parce que même qu'on a, on a entendu le truc là, on a dit what the fuck. En vrai, c'est pas si compliqué que ça à comprendre, c'est juste que les gens étaient tellement formatés par le nouveau, par le format d'avant de la Ligue des Champions, qu'on n'arrivait pas à vraiment visualiser cette réforme de la phase de groupe. C'est un peu compliqué à visualiser, mais quand tu le vis, en vrai, c'est assez divertissant. Maintenant, le seul hic dans ce format, c'est que bah, forcément, il y a plus d'équipes, donc il y a plus de matchs. Donc, va falloir, pour certaines équipes, alterner le championnat national, la Coupe d'Europe. Il y en a qui préfèrent délaisser le championnat national au profit de la Coupe d'Europe. C'est un choix. Voilà, je ne jugerai pas. Il y en a qui essaient de faire la balance des deux. Il y en a qui savent qu'ils n'ont pas de chance en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, donc ils préfèrent se concentrer sur le championnat national. C'est un choix aussi. Donc bon, chacun son organisation. Maintenant, on a vécu un truc il y a 2 jours, et c'est pour ça que je voulais en parler. On a vécu un truc il y a 2 jours, les gars. On n'a jamais vu ça. En fait, premier degré, pour le coup, c'est vraiment un truc historique. C'est un truc qu'on n'a jamais vécu. C'est un multiplex. Donc un multiplex, c'est littéralement une diffusion de plusieurs matchs en même temps. Multiplex, quoi. C'est un multiplex de 18 matchs en même temps. En fait, je sais pas si vous réalisez. Je sais pas si parmi mes auditeurs, il y en a qui ont Canal+, mais moi j'ai Canal+. Et du coup, on vit les multiplex de la Ligue des Champions. Et vous savez, il y a cette petite musique là. Cette petite musique de Canal+, là. Attendez, je vous la mets. Voilà, ce truc là. Je vous jure, je l'entends encore dans mes rêves. Je l'entends dans mes cauchemars. C'est énorme. Donc cette petite musique, en gros, elle indique, pendant qu'on regarde un match, enfin pendant qu'il y a un match qui est diffusé à l'écran, ça indique que dans un autre match, il y a eu un but. Donc en fait, après, bah, la régie, elle switch sur le match en question. Les gars, là, habituellement, les multiplex, c'est genre 8 matchs. C'est 8 matchs, quelque chose. Là, c'est 18 matchs en même temps. Les gars, je sais pas si vous réalisez, il y a eu, genre, en 30 secondes, au début du multiplex d'il y a 2 jours, en 30 secondes, il y a eu 4 buts. 4 buts, 4 fois. Je sais pas si... En fait, ce jingle... Oh, ce jingle, oh lolo. Les gars, le jingle, il s'est enchaîné 4 fois d'affilée en 30 secondes. C'était la folie. Il y a eu un but au bout de 1 minute 30, si je dis pas de bêtises. J'ai dit, mais c'est déjà la soirée du... Ça fait que 5 minutes que la soirée a commencé, c'est déjà la soirée du siècle. C'est pas possible. En fait, je savais que ça allait être n'importe quoi, mais à ce point-là, c'était la folie. Bon, je vous rassure, habituellement, c'est pas 18 matchs en même temps. Hein. Là, c'était vraiment parce que c'était la dernière journée de phase de groupe. Du coup, ils ont mis tout en même temps, parce qu'ils ont dit, on va vous nourrir. Aujourd'hui, on va vous nourrir, on va vous goinfrer. Mais habituellement, c'est réparti entre mardi et mercredi. Comme ça, le mardi, il y a 8 matchs, et mercredi, il y a 8 matchs. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça fait pas 18, ça fait 19 matchs. Oui, il y a 19 matchs en tout. C'est pas... En fait, c'est Canal+, qui n'a juste pas le droit d'un seul match. Du coup, ils ont diffusé 18 au lieu lieu de 19. Mais en soi, c'était quoi? C'était les Young Boys contre je sais plus qui. Voilà. Et c'était un match qui était pas très intéressant. Donc bon, mais je crois que c'était une histoire de sponsor comme quoi. Enfin bon, je ne sais pas. Voilà. Mais ils avaient pas le droit pour ce match. Donc ils ont diffusé 18 matchs au lieu de 19. Mais au final, on a quand même passé une soirée de fou. Parce qu'en plus, le match des Young Boys n'était pas incroyable, je crois. Donc, bon. Et puis qui regarde les Young Boys au bout d'un moment? Non, je rigole, pardon. Les Belges. Je crois que c'est des Belges, les Young Boys. Est-ce que je dis pas de bêtises? Absolument pas, ce sont des Suisses! C'est bien en tout cas. C'est très bien. Et du coup, bah, ce nouveau format, je ne l'ai pas précisé, mais ça s'applique aussi aux autres Coupes d'Europe, donc la Ligue Europa et la Conference League. Et du coup, bah, y a eu la même chose hier avec la Ligue Europa. Bon, la Ligue Europa, ça a mis un peu de temps à démarrer, parce que, enfin, en termes de rythme, de but, parce qu'il y avait beaucoup de 0-0, même au bout de 20 minutes. Le rythme n'était pas pareil, parce qu'au bout de 20 minutes, au multiplex d'il y a deux jours, il y avait facile déjà une vingtaine de buts, là. C'était déjà la folie. Là, bon, il n'y avait pas encore 10 buts, quoi. C'était gentil. En parlant de Ligue Europa, il y a un club en particulier qui joue la Ligue Europa. Je ne vais pas parler de l'OGC Nice qui a fini 35e, d'accord? Je vais parler plutôt de l'Olympique Lyonnais. Voilà, parce que l'Olympique Lyonnais, voilà, club particulier. C'est un club qui, je trouve, c'est même pas je trouve, c'est un fait, c'est un club qui fait beaucoup parler de lui. Et il le prouve encore aujourd'hui avec les magnifiques interventions de Textor. C'est un merloc que je ne peux pas me voir. Déjà les Américains de base, bon. On va pas parler longtemps, que sinon le podcast il va durer 2h30, il n'est pas envie. Bon, avant de vous raconter un peu ce qui s'est passé, je vais vous donner un peu de contexte. Parce que je vous jure, c'est la zizanie. C'était vraiment n'importe quoi à ce moment-là. Il faut que vous soyez prêts. 30 novembre 2023, l'Olympique Lyonnais est dans une place, dans une position plus que critique en championnat. Puisqu'ils sont littéralement derniers. Voilà. Et oui, l'Olympique Lyonnais était dernier du championnat, pendant longtemps en plus, pendant plusieurs semaines. Hein. Du 20 octobre jusqu'au 15 décembre, c'est-à-dire quasiment 2 mois. Leur début de saison était catastrophique, mais vraiment d'un niveau, c'était limite, au bout d'un moment, j'avais un peu de la peine, un petit peu. Parce qu'en fait, nous aussi, on n'était pas ouf. Je vais pas trop cracher sur eux, parce que cette saison-là, nous aussi, on était vraiment catastrophique. Mais eux, ils étaient vraiment dans un état critique. Au point même où tout le monde disait c'est fini pour eux, ils vont aller en Ligue 2. Parce que à un certain stade du championnat, être dernier au bout d'un certain temps, enfin je crois que c'était au bout de... En fait non, en fait tout le monde regardait le nombre de points qu'ils avaient à ce moment-là. Ils ont dit c'est fini, l'Olympique Lyonnais va aller en Ligue 2, c'est terminé. C'est clair et net, il n'y a pas de doute. On était quasiment un peu préparé à cette éventualité. Et le club a donc décidé de virer l'entraîneur qui était en position à ce moment-là. Donc à ce moment-là, il y avait Fabio Grosso. Et avant Fabio Grosso, il y avait Laurent Blanc. C'est très drôle parce que l'Olympique Lyonnais était tellement dans une position critique qu'au bout d'un moment, on est allé voir Laurent Blanc, on lui a dit « Mais c'est quoi la solution en fait concrètement là qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Il a regardé la journaliste dans les yeux, lui a dit « Faut changer peut-être l'entraîneur. » « Ah, il faut changer Laurent Blanc. » « Ah, peut-être. » Et bah c'est ce qu'il a fait. Il a pas perdu de temps. Il a enlevé Laurent Blanc. Il a mis du coup Fabio Grosso, qui est un entraîneur italien, si je dis pas de conneries, et qui du coup n'a pas eu une expérience au-delà des attentes, puisque en plus de ne pas aider l'équipe plus que ça, il s'est mangé des bouts de verre, et des trucs sur la tête, et des briques. Parce que oui, il y a un Olympico qui a été annulé, l'Olympico, donc le match Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille. Arrivé des joueurs lyonnais, leur car a tout simplement été attaqué par des supporters marseillais, je suppose. Enfin, c'est sûrement des supporters marseillais, quoi, les supporters lyonnais vont attaquer leur propre car, ce n'est pas logique. Voilà, donc il y a des idiots qui ont décidé de nous gâcher la rencontre. Bon, après, elle a été reportée, elle n'a pas été complètement annulée, mais il y en a ce soir-là qui ont décidé de nous gâcher la rencontre par pur... clubisme, voilà. C'est débile, hein, c'est débile. Mais du coup, voilà, il s'est mangé des bouts de verre, ça a été très traumatisant pour lui. Donc je pense que c'était aussi l'une des raisons de pourquoi il était pas loin d'arrêter. Et aussi parce que aussi, bah, les résultats n'étaient pas satisfaisants. Donc, limogeage de Fabio Grosso. Et donc, vous allez me dire, mais là, l'Olympique Lyonnais, ils sont un peu dans le caca, là, ils sont derniers, ils n'ont pas d'entraîneur. Attention, l'intérim, elle appelle qui? Pierre Sage, qui à ce moment-là était, je crois, il gérait un peu le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Donc on l'appelle, hein, l'intérim. Dimero, on a dormi dans la merde, là, viens là. Mais voilà, c'est comme nous, en fait. Nous, comme à cette saison-là, on était un peu dans la même situation, sauf qu'on n'était pas dernier. On était bas dans le classement, mais on n'était pas dernier. Et on enchaînait un peu les entraîneurs. Et au bout d'un moment, on est arrivé à un stade où on n'avait plus d'entraîneur, on a appelé Pancho, notre fameux Pancho, et on lui a dit, frérot, viens faire l'intérim, viens. En plus, il est tombé sur le pire match, parce qu'il est tombé sur un match de Coupe d'Europe, mais par contre, on l'a pas perdu, c'est bien. Mais il est aussi tombé sur un match contre le PSG, qu'on a perdu 4-0. Mais bon, ça, c'est pas ça le sujet du podcast, là. Oh, ça, j'ai été appelé pour faire l'intérim, le temps de trouver un autre entraîneur. Sauf que, bah, ça commence à voir que les résultats avec Pierre Sage, ils sont pas si dégueux que ça. Il remonte, 16e place, 15e place, 16e, bon, il redescend un petit peu, il monte, 11e place, 10e place, il remonte petit à petit. Ils arrivent 7e place, ça se rapproche de l'Europe, carrément, les gens sont choqués. On parle d'un gars qui fait de l'intérim. On parle d'un gars qui n'est pas entraîneur, qui s'occupe normalement des jeunes, des centres de formation. On parle d'un gars qui, de base, était juste là pour tenir un peu la maison avant qu'elle ne s'effondre, pour attendre le temps que les vrais menuisiers, les gens qui savent faire arrivent. Il a dit non, je fais moi-même. Et il a fait lui-même. Et donc, vous allez me dire, bah, tout est bien qui finit bien, on trouve leur entraîneur. Oui, ils l'ont gardé, ils l'ont prolongé. Il était encore entraîneur jusqu'à maintenant. Et c'est de ça dont je vais parler. En ce moment, tout se passe à peu près bien pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, là, actuellement, ils sont 6e. Ils sont provisoirement qualifiés pour la Conference League. Ça va, c'est pas catastrophique. On est bien. C'est même loin d'être catastrophique. Ils sont dans le top 6. Le top 6, c'est littéralement le top des Coupes d'Europe, des qualifications de Coupe d'Europe. Donc, franchement, ils sont bien. En Coupe d'Europe, c'est pareil. Ils sont pas du tout catastrophiques. Ils sont dans le top 8. Le top 8, si je vous le rappelle, est littéralement le top pour qualifier directement en 8e de finale. Donc ils sont 6e, donc franchement leur performance ces derniers temps est loin d'être mauvaise. Bon, ces derniers temps là, ce mois de janvier, le jeu proposé n'était pas forcément le meilleur, mais les résultats sont quand même au rendez-vous. Qu'est-ce que Textor fait, John? Alors John Textor, est-ce que je vous ai donné le contexte de qui c'était? John Textor, le président de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que décide de faire John Textor? Il décide de limoger Pierre Sage. En fait, je vous explique. Moi, je suis au Marseille, d'accord? Ok. C'est-à-dire que l'Olympique Lyonnais, c'est mes rivaux. C'est mes ops, d'accord? Mais quand je vous dis que quand j'ai vu ça, j'étais dans l'incompréhension de la plus totale. Et j'avais limite de la peine. Parce que, en fait, je crois que Pierre Sage, vous vous rendez pas compte d'à quel point les travaux étaient colossaux. La charge de travail, les espoirs qui devaient faire revenir. Il avait tellement une montagne de taf quand il est arrivé. Il les a sauvés. Il a littéralement sauvé l'Olympique Lyonnais. Alors il faisait juste de l'intérim. Je sais pas si on s'en compte. Et Textor, il a décidé, il a fait « Toi, je te vire » pour ramener Paolo Fonseca. Paolo Fonseca qui sort d'une saison avec l'AC Milan. Bon, on en pense ce qu'on veut. Mais bon. Déjà que l'AC Milan, ces dernières saisons, c'est pas... Bon, alors, disclaimer, je regarde pas la série. Hein. Mais je suis un peu les résultats et je suis un peu ce qui se passe. Je peux vous dire avec facilité que l'AC Milan, c'est pas ouf hein, ces derniers temps. Ces derniers temps, je parle pas pour tous les matchs, parce qu'ils gagnent quand même des matchs, mais je parle dans le jeu, et puis en plus c'est un peu aussi pourquoi je regarde pas trop la Serie A, parce que c'est un peu un snooze fest, hein. On va pas se mentir, il y a peut-être 2-3 équipes qui relèvent un peu le niveau, mais sinon, waouh, quelle sieste, vraiment une bonne sieste. Donc Paolo Fonseca, il sort d'une... C'est même pas une saison, il a même pas fait une saison, mais il vient de se faire limoger de l'AC Milan, là. Il a fait de juillet 2024 jusqu'à décembre 2024, c'était pas... Là, l'AC Milan, ils sont, je crois, 7e de Serie A. C'est pas ouf, parce que les Coupes d'Europe, elles vont de la première à la 6e place, ils sont même pas qualifiés pour une Coupe d'Europe. C'est compliqué pour eux, là. On parle quand même de l'AC Milan, c'est pas n'importe quoi. Donc il a été limogé, et là, il va à l'Olympique Lyonnais. Les amis, je ne sais pas ce qui va se passer pour les Lyonnais. Bonne chance. Bonne chance. Ça, c'est en plus, anecdote, hein. On a failli le recruter, hein. Là, l'été dernier, quand on cherchait un coach, parce qu'on était au bord du gouffre et que Papy Gassé, il a dit « Je veux prendre ma retraite, merci pour tout ». D'ailleurs, merci beaucoup Jean-Louis Gassé pour les travaux. Force à toi, c'était dur la CAN 2024 pour toi, mais tu t'es relevé avec nous. Et voilà, merci. On a failli recruter Paolo Fonseca, hein. Heureusement, on l'a pas fait, je suis désolée. Heureusement, on l'a pas fait, je suis désolée. Comme quoi, l'expression « un mal pour un bien » n'a jamais été aussi vraie. On était tous déçus à l'époque. On s'est dit « Oh là là, Paolo Fonseca, non, elle a décidé d'aller à Milan, non !» Parce que c'est un peu le suspense, là. Est-ce qu'il va venir chez nous? Est-ce qu'il va aller à l'AC Milan? Il a pris à l'AC Milan, on a fait « Non, non !» Au final, on a pris De Zerbi, qui était inespéré aussi, et qui, pour l'instant, fait du bon taf. Moi, personnellement, je vais à la guerre avec De Zerbi. Hein. Oh, bref, c'est toujours pas ça le sujet, il faut que j'arrête. Hein. Donc, Pierre Sage a été limogé. Et en fait, il y a une incompréhension totale autour de ce limogeage et de cette gestion de l'effectif, du staff, en fait, cette gestion du club. C'est vraiment, je ne comprends pas les choix que John Textor fait. Autant des fois, il va sur RMC, il dit les termes. Voilà, il critique Nasser Al-Khelaïfi, il critique la Ligue. Franchement, des fois, il parle français et j'aime bien. Mais autant 90% du temps, il dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Il y a une séquence, là, après le match d'hier, parce qu'hier, ils ont joué à l'Euro... Oui, à l'Europa League. Ils ont joué à l'Europa League. Ils ont pas perdu, ils ont fait nul. Ryan Cherki, il est allé voir les supporters pour parler de la situation actuelle avec Pierre Sage, etc. Ils ont parlé de ça. Vous savez ce que Textor, il faisait pendant ce temps? Il prenait des selfies!
avec les gens. Il prenait des selfies avec les jeunes, comme ça. Ha ha ha, grand sourire, sourire à pleines dents. C'est pas genre des petits selfies en mode un peu blasé. Sourire à pleines dents, des dents blanches, des veneers. Des veneers plus clairs que mon avenir, gros. Je trouvais ça... Hey, j'étais hallucinée par le clip. T'as Ryan Cherki qui est en train de parler aux supporters de la situation actuelle, du malaise, du truc. Et l'autre, il prend un selfie avec les supporters. Il n'en a absolument rien à faire. Il prend ses décisions, et qu'elles soient bien ou qu'elles soient mauvaises, qui en plus, la plupart du temps, franchement, elles sont pas ouf. Qu'elles soient bien ou qu'elles soient mauvaises, il en a rien à faire. Il s'en fout. C'est une folie. Apparemment, il est allé annoncer à Pierre Sage son licenciement avec un sourire. En mode, ouais, bah écoute, hein, mon ami, bah c'est fini entre nous. Voilà, hein, tu vas aller prendre tes affaires et puis voilà. Ça, c'est d'après ce que j'ai lu sur les réseaux, hein, bien évidemment. Vous voyez, pour le coup, vous voyez, je suis marseillaise. Là, ce genre de truc, je vous jure, si ça m'arrive, ou si ça arrive à l'entraîneur de mon club, mais je skise. Mais je pète un bon. Mais c'est pas possible. En plus, ça se voit que les joueurs, ils sont également affectés par ça. Parce que bah, Ryan Cherki, il est allé voir les supporters. Il y a eu aussi des stories de plusieurs joueurs. Ça se voit que les joueurs, ils sont affectés par ça. Donc là, t'es en train de créer un malaise dans ton effectif, dans ton club. Parce que t'as limogé ton entraîneur qui t'a sauvé. Parce que lui, là, l'année dernière, on s'en souvient, il était en train de dire « Vous inquiétez pas, on va pas se faire relégate, on va pas... » Non, ça, c'est Ronan O'Gara, pardon. Ça, c'était l'entraîneur de La Rochelle, hein, je m'excuse. Mais il disait à tous les médias « Oui, vous inquiétez pas, on va pas se faire relégate, on va pas aller en Ligue 2, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. » Qui t'a sauvé au final? Qui t'a sauvé au final? Non, mais je te pose une question. Qui a sauvé ton club de la relégation? Voilà. En fait, c'est le traitement tellement déshumanisant de la personne qui me fait de la peine. En fait, c'est ça qui me fait le plus de peine. C'est juste qu'on l'a déshumanisé et il l'a juste dégagé comme si c'était un vulgaire truc. Enfin bref, voilà. C'est pour ça que je voulais en parler parce que franchement, ça, toute la situation, elle est ahurissante, voilà, je trouve. Passons à un autre entraîneur. Parce que là, on a parlé du limogeage de Pierre Sage, comme quoi c'était un peu scandaleux, etc. On va parler de Georges Sampaoli. Cet Argentin un peu, hein, un peu zinzin dans sa tête. Georges Sampaoli, c'est un entraîneur de football argentin et il a été l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il a été lyonnais, mais c'est bon, on a parlé des Lyonnais là, ça suffit. Donc il a été entraîneur de l'Olympique de Marseille de mars 2021 jusqu'en juillet 2022, avant d'être remplacé par Igor Tudor. Et franchement, sa saison avec Marseille, c'est considéré comme l'une des meilleures saisons de l'Olympique de Marseille. Vraiment, c'était incroyable. Jusqu'à ce que, bon, après qu'il ait quitté Marseille, sa carrière d'entraîneur, elle a un peu... Bon, c'est un peu questionnable, hein, franchement. Il a fait 5 mois à Séville, 5 mois qui n'ont pas été concluants de fou. Il a fait combien de mois à Flamengo? Il a fait de avril jusqu'en septembre 2023. Bon, ça pour le coup je vais pas vous mentir, je sais pas trop parce que je regarde pas le championnat brésilien. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est son passage au Stade Rennais. Et oui. le Stade Rennais là actuellement, ils sont pas dans une position des plus agréables, sachant que en championnat ils sont actuellement 16e, donc ils sont barragistes. C'est pas ouf du tout. Donc après avoir limogé leur entraîneur, ils ont engagé Sampaoli. Sur le papier ça avait l'air bien, t'as vu, c'est Sampaoli. Mais en fait le problème c'est que Sampaoli, on a encore son image de son passage à Marseille et on oublie un peu que entre temps c'est un peu mid ce qu'il faisait. Donc il y en a certains qui se disent ouais sur le papier c'était bien, ça avait l'air d'être un projet, voilà. Mais en vrai, les gars, un entraîneur, il est censé aussi refléter l'âme du club. Tu peux pas engager un entraîneur au hasard sous prétexte qu'il a un petit palmarès et qu'il a un peu d'attitude ou je sais pas. Non, il faut que l'entraîneur, il sache où il met les pieds, il sache où il va être reçu, dans quel championnat, etc. Il faut qu'il connaisse un peu tout ça. Bon, en vrai, Sampaoli, il a le contexte du championnat français, mais c'est pas un club comme Marseille, c'est pas la même chose. Ça, il va pas y avoir la même étincelle. Sampaoli, son caractère, il fit bien avec l'Olympique de Marseille, parce que l'Olympique de Marseille, c'est un club qui... c'est la folie, c'est la ferme en folie, c'est le cirque pimbert là. Il faut un tempérament de feu, il faut avoir une grinta de zinzin pour entraîner Marseille. Et je trouve que justement c'est pour ça que j'aime bien Roberto De Zerbi actuellement, parce que il remplit bien ce job, enfin ce côté de ce job là, il le remplit bien. Il a la bonne attitude, il a la bonne ambition, il a la bonne hargne de gagner, même si on gagne pas tout le temps avec bon. Mais il est bon dans ce rôle là. Bon après même tactiquement il est très bon, mais dans ce rôle-là, je l'aime bien. Georges Sampaoli, c'était exactement la même chose. Il avait une attitude qui était appréciée aussi des supporters parce que il avait la rage de vaincre. C'était pareil. Et les résultats aussi étaient au rendez-vous parce qu'on a fini deuxième cette saison-là. Là,
avec tout le respect que j'ai pour les Rennais et les Bretons et tout, on parle du Stade Rennais. On parle pas de... On parle pas de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas la même chose. Le contexte n'est pas pareil, il est complètement différent. Et je trouve que, justement, il y avait ce manque de cohérence dans le choix de l'entraîneur. Et ça fait que, bah, il n'y a pas forcément eu cette connexion avec l'effectif, le jeu proposé. C'était brouillon, en fait, c'était brouillon. Qui fait que, bah, les joueurs, bon, ils sont en premier lieu, on va dire, responsables du jeu proposé, mais il n'y a pas que eux, il y a aussi l'entraîneur. Parce que si lui, il a une vision et que les joueurs ne suivent pas derrière, bah, c'est voué à l'échec, ça ne sert à rien d'essayer. Donc voilà, Georges Sampaoli a été limogé de son poste après combien de mois au poste? Ça fait vraiment pas longtemps. Après tout pile 2 mois, voilà. 2 mois où il aura cumulé 7 défaites et 3 victoires. Ce qui est vraiment pas beaucoup. Ce qui est même très mauvais. Encore une fois, c'est une preuve que un bon entraîneur sur le papier qui soi-disant a de l'expérience dans le championnat, bah ça va pas forcément fonctionner puisque il y a un tas d'autres facteurs à prendre en compte et voilà, c'est tout. C'était à tenter, mais force est de constater que ça n'a pas marché. Voilà.
C'était d'ailleurs comment j'ai pu oublier l'information la plus cruciale, le fait que la seule chose qu'il ait fait au club, c'est... non mais ça me fait toujours rire, le fait que la seule chose qu'il ait fait au club, c'est arriver voir Mandanda de loin dans les cages, skiser. Prendre son téléphone, appeler Samba, prendre Mandanda, le mettre dans le placard, mettre Samba au cage, et basta. C'est bon, il peut partir, il a accompli sa mission. La vendetta qu'il a contre Mandanda me fera toujours rire. Bref.
En fait, des fois, il y a des choix qui sont pris, tu les regardes de loin, tu te dis, mais ça, jamais de la vie, ça fonctionne. Des fois, t'as tort, mais des fois, c'est sûr et certain que t'as raison. Pour le coup, moi, quand j'ai vu les vidéos de Sampaoli avec le gros bonnet du Stade Rennais, j'ai esquisé, j'ai dit, mais il y a aucun monde où ça fonctionne, je suis désolée. Si ça fonctionne, franchement, chapeau l'artiste. Parce que en vrai, je n'ai rien contre Sampaoli, mais malgré la manière dont ça s'est fini entre nous, je n'ai rien contre ce monsieur. Mais si ça fonctionne avec Anne, franchement, chapeau. Chapeau, monsieur. Après, je suis un peu dégoûtée parce qu'on n'a pas eu le match Marseille-Rennes, donc le match vraiment au Vélodrome, on aurait pu réavoir Georges Sampaoli au Vélodrome, ça aurait été incroyable. Malheureusement, il n'a pas assez duré et on a eu que le match Rennes-Marseille où on a gagné. C'était bien, mais c'était à Rennes et voilà, ça fait un peu chier. Je n'ai pas revu Sampaoli sur le banc du Vélodrome et c'est un peu triste. Bien, en parlant de Vélodrome, on va parler de Marseille. Si j'en avais pas déjà parlé 15 fois dans le podcast. Malgré moi, parce que je fais pas exprès, je vous jure, c'est juste que, en fait, en parlant, je me rappelle de certaines choses, et ça fait que, bah, c'est souvent lié à Marseille, et du coup, bah, j'en parle. Là, on va vraiment se focaliser sur eux. J'ai dit qu'on allait parler de Mehdi Benatia. Contexte, je vais vous le donner. Mehdi Benatia, c'est un ancien joueur de football, bien évidemment, qui a joué dans des clubs comme le Bayern Munich, la Juve, la Roma, et bien évidemment, le sujet d'aujourd'hui, enfin, le sujet de maintenant, là, tout de suite, là, l'Olympique de Marseille. Voilà. Surtout joué à Marseille quand il était très très jeune, et entre-temps, pendant qu'il était à Marseille, il a été prêté à Tours, il a été prêté à Lorient, donc c'était pas genre des saisons complètes à Marseille, mais il a quand même fait un passage, il a quand même été formé là-bas, et il a joué dans les U19, etc. Donc voilà, Marseille, c'est quand même un club de cœur pour lui.
Preuve à l'appui, il y travaille actuellement, et il a même été promu au poste de directeur du football, et ça, c'est pas un poste à prendre à la légère, parce que son rôle, c'est la gestion du staff, de l'effectif, du recrutement, donc des arrivées, des départs des joueurs. C'est un poste qui est très très important, et le fait qu'on lui ait donné cette confiance, parce qu'il il a fait du bon travail quand il est arrivé, eh ben, ça prouve quelque chose. Là. Plus de veiller sur le recrutement, il veille aussi sur le centre de formation, et aussi sur l'aspect financier du club, tout simplement, il gère le budget, il fait en sorte que les performances sportives soient au rendez-vous, toujours, enfin, un rôle qui est clairement pas à prendre à la légère. Donc le fait qu'on l'ait promu à ce rôle, c'est que, voilà, on a vraiment confiance en lui, et pour le coup, on peut avoir confiance en lui, vraiment, c'est... Moi... Je lui donne mes gosses. Bref, Mehdi Benatia, depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, franchement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Il fait son taf, il le fait bien. Bon, il peut y avoir quelques recrutements qui laissent à désirer, mais ça, à la limite, on peut pas tous être parfaits. C'est pas... c'est dommage, hein, mais bon. Moi, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. C'est un homme droit qui fait pas de crasse. Et justement, on va en parler de ça, parce que c'est le sujet, c'est le pourquoi, du comment on va parler de lui, là. Depuis le début de la saison, Il y a comme qui dirait un sentiment d'injustice et même d'acharnement envers Mehdi Benatia qui là petit à petit commence un peu à venir à la tête de d'autres, de journalistes, de sportifs, d'autres supporters qui sont pas forcément supporters de l'Olympique de Marseille. Ça, les gens commencent à s'en rendre compte. Je vais vous
donner du contexte encore une fois.
Depuis le début de la saison, on a pu constater plusieurs erreurs d'arbitrage assez flagrantes. Et avant, bon, il y avait des saisons où c'était pareil, il y avait énormément de... Ça, c'est pas un truc nouveau, hein, les erreurs d'arbitrage contre l'Olympique de Marseille, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Néanmoins, ce qui change des saisons précédentes, c'est notre réaction. Parce que cette saison, on a décidé qu'on allait plus se faire marcher sur les pieds, qu'on allait plus se laisser faire. Parce que là, c'est trop, voilà. Là, c'est la supportrice qui parle. Non, c'est pas la supportrice qui parle, parce que les erreurs d'arbitrage, ça concerne pas que nous, ça concerne beaucoup de clubs en France. Et il y a même un questionnement autour de l'arbitrage français. Il y en a beaucoup qui trouvent que l'arbitrage français manque de niveau et que, en fait, à chaque journée, il y a une erreur d'arbitrage. Et au bout d'un moment, les gens commencent à se demander, mais est-ce que c'est vraiment des erreurs? Ou c'est délibéré? Ou c'est un manque de niveau? Ou on ne sait pas ce que c'est. Bon, première erreur scandaleuse qui me vient en tête, c'est ce carton rouge en début de Classico sur Harits. La colère est en train de remonter. Alors, pour contexte, en gros, c'est Harits qui fait un mauvais geste et qui, avec sa jambe et le pied, enfin le côté plat de son pied, donc en gros le côté crampon, donne un coup sur le torse de Marquinhos, donc joueur du PSG, sauf que en fait à première vue ça paraît comme s'il l'a frôlé. Après, Marquinhos, il en fait des tonnes, il lève son t-shirt, il dit regardez, j'ai des petites traces, il lui met un rouge. Ok, ça fait 5 minutes, hein, le match il a commencé, hein, 5 minutes carton, vous sentez que je suis énervée là. Carton rouge pour Harits. Bon, nous on est blasés parce qu'on se dit frérot, déjà que la rencontre, on était dubitatif, mais en plus là, tu viens de tuer le match, d'accord ? Et il dit oui, je pense à l'intégrité physique des joueurs. Quelques semaines après, Donnarumma, il se fait défigurer, littéralement. Il se fait défigurer le visage par un joueur de l'AS Monaco. Vraiment, il y a même des images d'après de lui avec vraiment des agrafes sur le visage. Il aurait pu perdre un œil. Je vous le dis, l'action était tellement violente, il aurait pu perdre un œil. Et devinez s'il a été sanctionné, le joueur. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Non, il n'a pas été sanctionné. Il n'a rien eu. Il a ni carton jaune, ni carton rouge, ni rien du tout. Voilà. C'est bien, l'intégrité physique des joueurs. En plus, attendez, parce que si ça avait été que ça. C'est le même arbitre. C'est exactement le même arbitre. L'arbitre qui a arbitré OM-PSG, c'est le même qui a arbitré AS Monaco-PSG. C'est... En fait, vraiment, vous voyez, ça c'est une erreur parmi tant d'autres. Parce qu'il y a eu d'autres erreurs avec, par exemple, des pénaltys non sifflés, alors que c'était clairement évident. Je pense notamment au dernier match en Coupe de France contre Lille, où malheureusement en Coupe de France, il n'y a pas la VAR. Donc tu ne peux pas, l'arbitre ne peut pas aller voir l'écran pour regarder s'il y a vraiment faute. Il n'y a pas la VAR. Donc s'il y a faute et qu'il ne le voit pas, s'il estime qu'il n'y en a pas, on est clairement foutu. Parce que déjà que l'arbitre nous aide pas en normal, et si en plus il décide qu'il n'y a pas faute, ou alors il y a un truc qu'il a pas vu, c'était dans son dos et tout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bref, il y a tellement eu d'erreurs d'arbitrage cette saison que Longoria, donc le président, et Benatia, ils ont dit, on va plus laisser faire. Parce qu'au bout d'un moment, les saisons passent, les erreurs d'arbitrage s'accumulent. On ne dit rien, on est gentil, on se fait avoir, on ferme notre gueule. Au bout d'un moment, on en a marre. on va lever nos fesses et on va aller parler. Le problème étant que on a de plus en plus l'impression qu'on n'a plus vraiment trop le droit à la parole. Parce que il y a une sorte de censure pas vraiment explicitement dite qui est en train de s'installer autour de Mehdi Benatia, qui fait que à chacun de ses faits et gestes, on va le traiter comme un voyou, on va le traiter comme un mal éduqué, comme un violent. C'est, en fait, ça en devient hallucinant. Parce que d'un côté, t'as un homme qui descend sur la pelouse, certes, ok, il devrait pas descendre sur la pelouse, ça fait des semaines, on nous dit, oui, mais qu'est-ce qu'il fait sur la pelouse? Pourquoi il est sur la pelouse? Il devrait rester en tribune et pas être sur la pelouse. On a compris. on a compris, je vous assure qu'on a compris. C'est pas ça le débat. Ok, il est sur la pelouse, il devrait pas être là, machin. Bon, il descend sur la pelouse pour dire à son staff, calmez-vous. Parce que, pour le contexte, en gros, c'était pendant le match contrôlé. Voilà, on va arriver sur le sujet en question là, parce que c'est pour, on va arriver sur le sujet de pourquoi je voulais parler de Benatia aujourd'hui, parce que c'est scandaleux. Donc, c'était pendant le match contre Lille en Coupe de France, et donc, comme je vous ai dit, il y a un pénalty qui a pas été sifflé pour nous. Voilà, il y a un pénalty qui a pas été sifflé. Il est descendu du truc. Il est descendu de sa tribune pour dire à tout le monde de se calmer, de son staff. Hein, il a dit à tout le monde de calmez-vous. Parce qu'en plus, oui, on venait d'égaliser au dernier moment. C'était la folie. Sauf que, en fait, moi, j'ai des PTSD. C'est-à-dire que j'étais le personnage là dans Squid Game. J'étais en mode, j'ai déjà joué à ce jeu avant. Je savais ce qu'allait se passer. Et finalement, en fait, c'est pas tant pour ça la raison dont on parle. C'est pas pour le dénouement du match. Parce qu'en soi, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. On a été éliminés. Bref, c'est pas ça le plus important. Parce que même quand. Parce que, alors, là, j'ai des choses à dire là. Y a des gens qui nous disent oui, mais vous êtes des pleureuses, vous pleurez à chaque fois sur l'arbitrage. Même quand on gagne, on a parlé de l'arbitrage. Pour vous dire, c'est pas une question de si on perd ou quoi. Si on perd, on est nul, c'est comme ça, c'est la vie. Mais quand il y a des erreurs d'arbitrage qui sont flagrantes, même si on gagne, c'est pas une raison pour ne pas aller dire ce qui va pas. Parce que si on laisse passer ça, on va dire ouais, mais la dernière fois, il s'est passé ça, vous avez rien dit. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. On a rien dit. Mais du coup, là, on va pas laisser passer les choses, même quand on gagne. S'il se passe quelque chose d'injuste, on va le dire. Et c'est pas parce que oui, on perd et tout. Non, ça n'a aucun rapport. Je reprends mon histoire. Il descend de sa tribune, il va dire à tout le monde de se calmer, il va voir le quatrième arbitre et il va lui dire oui, il y avait pénalty là-bas. Et il pointe du doigt la surface de réparation. Il dit il y avait pénalty là-bas. Qu'est-ce qu'il dit le quatrième arbitre? Il dit il m'a menacé avec son doigt. Les gars, à ce stade, vous voulez faire quoi ? En fait, à ce stade, vous voulez faire quoi ? En fait, à ce stade de la compétition, j'allais dire, à ce stade de la vie, vous voulez faire quoi ? On peut plus parler, on peut plus dire ce qui nous plaît pas. Alors que, parce que non, l'histoire n'est pas finie. Il y a ça. Donc, Benatia, il fait ça, et à côté, t'as le président de Lille qui descend de sa tribune lui aussi, qui attrape par le bras de quatrième arbitre. Donc lui, il y a attaque physique directement, et qui lui crie dessus. Il y a attaque physique. Devinez qui a eu la plus grosse punition. Devinez. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3. Mehdi Benatia. Voilà, c'est lui. C'est lui qui a eu la plus grosse. C'est lui. Voilà. 3 mois ferme. De prison, oui. À Guantanamo, là. Non. 3 mois ferme de suspension. Donc, ça veut dire qu'il ne pourra plus être présent avec les joueurs au stade et tout. 3 mois ferme de suspension. Et 3 mois de sursis. Mais peut-être qu'il a tué le quatrième arbitre, en fait. On sait pas. Peut-être qu'il a sorti un gun et il a tiré dans le crâne. On sait pas, hein. Peut-être qu'il a tiré dans la nuque. Ça l'éteint direct. Bon, quoi que la tête. Ouais, la tête, ça l'éteint direct aussi. Hein. Et le président de Lille, si vous vous demandez, il a eu que 1 mois ferme. Dont 1 mois avec sursis. Et si vous avez encore des doutes sur ce que j'avance, parce que peut-être allez voir les images, elles sont sur Twitter. L'Olympique de Marseille a posté des images exactes de tout ce qui s'est passé de A à Z sur leur compte Twitter. Si vous voulez vraiment avoir les images, vous allez sur le compte Twitter de l'Olympique de Marseille. C'est quoi @om-officiel. Vous allez voir les images. Je vous l'ai dit, c'est un scandale. Voilà. En fait, tout le monde le dit. Là, tout le monde le dit. Ça fait le tour des médias. Sur l'équipe, ils l'ont dit. Sur RMC, ils l'ont dit. Les journalistes sur les réseaux, ils sont aussi scandalisés. Les joueurs sont scandalisés, tout le monde est scandalisé. Ça n'a aucun sens. Cette sanction n'a aucun sens. Je ne comprends pas, personne ne comprend le sens de la sanction, vraiment. En fait, à la limite, si vous voulez sanctionner Benatia, bah vous inversez les sanctions, c'est tout. L'autre, il prend 3 mois, lui, il prend 1 mois, enfin, Benatia prend 1 mois, et puis voilà, c'est tout. Non, vous avez mis 3 mois à Mehdi Benatia, qui n'a absolument rien fait, évidemment, parce qu'il n'a pas pointé du doigt l'arbitre, il a pointé la surface de réparation. Il n'a pas pointé l'arbitre du doigt, comme l'arbitre l'avance, bien évidemment. Et mention spéciale à... Comment il s'appelle l'autre là ? Clément Turpin, qui est arrivé et qui n'a même pas cherché à comprendre ce qu'il se passe. Il n'a même pas cherché à comprendre. Il n'a rien cherché à comprendre. Il n'a rien cherché du tout. Et ça s'est passé dans son dos. Il s'est tourné. Il a vu qu'il y avait du brouhaha comme ça sur les bancs et tout. Il a vu qu'il se passait un peu la zizanie. Il est arrivé. Il a dégainé son carton rouge. Il lui a dit tiens Benatia. Tiens Mehdi, va t'asseoir. C'est scandaleux, vraiment c'est n'importe quoi. Et l'arbitrage français me donne des sueurs froides à chaque week-end parce que je me dis mon Dieu, mais quel épisode sordide il va se passer encore, quelle magouille encore il va se passer. Je redoute, en fait je redoute même pas du score, je redoute de l'arbitrage qui va nous détruire le match. Là ce dimanche on joue l'Olympique Lyonnais, je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur parce que là en fait on n'est plus sûr du tout de si une rencontre va bien se passer, si on va pas être scandaleux.
scandaliser, si nos dirigeants ils vont pas se prendre des sanctions absolument injustes. En fait, on n'est plus sûr de rien du tout dans cette ligue. Ça devient la dictature. C'est quoi ça? Bref, assez parlé de la Ligue 1. Ça y est, j'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose jusqu'à ce week-end là. Je vais reprendre ma dose et on va voir ce que ça donnera. On va parler maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, let's go! Bonjour les gars, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte de ce qui va se passer. Mais en même temps, j'ai pas hâte. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, un petit peu de contexte. Donc la Coupe d'Afrique des Nations, elle va se dérouler au Maroc cette fois-ci. Et elle va commencer, elle va durer du 21 décembre 2025 au janvier. Bah oui, jusqu'en janvier, au 18 janvier 2026. C'est une compétition qui se passe tous les deux ans. Et cette année, ce sera au Maroc, après la magnifique édition en Côte d'Ivoire. Les gars, l'édition de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Il n'y en aura pas des comme ça. Il n'y en aura pas d'autres. Je ne vais bien évidemment pas parler de la campagne de l'Algérie pendant la CAN 2023. Parce que sinon, je vais commencer à m'énerver. Mais ça reste quand même que, même si l'Algérie a fait une CAN absolument dégueulasse, la CAN en elle-même était absolument grotesque. Et j'ai jamais autant apprécié regarder une compétition depuis la Coupe du Monde 2022, c'est pour vous dire. Donc là, j'ai énormément d'attentes pour la CAN 2025 au Maroc. Je pense qu'elle va être bien organisé, ça c'est pas tant un problème, c'est vraiment juste, en fait c'est surtout l'ambiance, parce que je trouve qu'en Côte d'Ivoire il y avait une bonne ambiance, il y avait une sorte de rassemblement de tout le monde, tout le monde était heureux, donc j'espère que ce sentiment va revenir encore au Maroc, en vrai de vrai, je pense que ce sera le cas, parce que c'est une compétition qui rassemble tellement les gens, bon évidemment il y a des rivalités, c'est indéniable, mais c'est une compétition que je trouve qui est à part. Vraiment, on vit des choses qu'on ne verrait tellement pas ailleurs dans cette compétition. C'est pour ça qu'elle est unique. Et c'est pour ça que j'ai apprécié la regarder en 2023-2024. Et dites-vous que l'édition, la dernière édition en Côte d'Ivoire, j'étais malade. Je suis tombée malade vers... C'était quand, mais c'était un peu, on va dire, je crois que c'était pendant les quarts ou les demi-finales. J'étais tombée malade de fou furieux. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, cette période-là de ma vie, là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a tout qui s'est mélangé dans mon corps, j'étais tombée malade de fou. Et pourtant, j'ai tellement apprécié regarder la CAN quand même. En plus, j'étais tellement malade au bout d'un moment que j'arrivais même pas à me lever de mon lit. Et du coup, j'ai dit, en plus, il y avait un match, je crois que c'était le Congo, et je voulais absolument regarder le match du Congo. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis un live, je crois que c'était du Maigri Parisien, et j'avais mis son live, et il commentait tellement bien que c'est comme si j'avais vécu le match. C'était une folie. Voilà. Pour vous dire, malgré la maladie qui m'a tabassée à un moment donné, j'ai vécu une CAN absolument incroyable. Et donc, il y a 3 jours de ça, il y a eu les tirages au sort pour faire les groupes, pour la phase de groupe. Et le match d'ouverture, ça sera Maroc-Comores. Donc, je pense, en vrai, le Maroc va bien s'en sortir. Je pense que le Maroc peut faire une bonne CAN. C'est ma petite prédiction. Je pense que le Maroc va faire une très bonne CAN. J'allais dire à l'image de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, c'était un peu compliqué au début. Ils ont quasiment failli être éliminés, sauf que le classement des meilleurs troisièmes les a sauvés. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de tweets qui disaient « Ouais, merci le Maroc ». En gros, ce qui s'est passé, c'est que la Côte d'Ivoire, en phase de groupe, était quasiment éliminée, je crois qu'ils étaient troisièmes. Et en gros, quand t'es troisième, il y a un classement des meilleurs troisièmes. Et dans le classement des meilleurs troisièmes, je crois qu'il y en a, je sais combien, il y a 6 équipes dans le classement des meilleurs troisièmes, et la Côte d'Ivoire était quatrième. Et il y avait un match, c'était Maroc-Zambie, et en gros, bah, si la Zambie gagnait ce match, il repassait devant non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi le Ghana. Donc les Ivoiriens, ils étaient en sueur, là. Et heureusement pour eux, le Maroc a gagné 1-0, je crois, et la Côte d'Ivoire a pu se qualifier, parce que c'est les 4 premiers, justement, qui passent. En fait, c'est comme une sorte de seconde chance, en gros. T'es troisième, t'es partiellement éliminé, mais t'as quand même une chance de te qualifier si tu finis parmi les 4 premiers du groupe des meilleurs troisièmes. Voilà, je sais pas si c'est clair. Ce moment, vraiment... En fait, j'ai vu... Ah, d'ailleurs Vraiment, l'année dernière, c'était vraiment... En fait, je crois que c'était un sketch. En fait, c'est un sketch. La saison dernière, c'était un sketch. Parce que dites-vous que l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, avant qu'elle se fasse potentiellement éliminer, vous savez c'était qui? Jean-Louis Gasset.
Et j'ai vu ça. Et j'ai vu que, genre, juste après qu'ils aient perdu 4-0, contre. C'était qui ? C'était quelle Guinée ? Je crois que c'était la Guinée équatoriale. Ah, c'est ça. C'est la Guinée équatoriale. Donc, ils ont perdu 4-0. C'était vraiment considéré comme une humiliation. Et franchement, bah, je comprends parce que c'est le pays hôte. Tu perds de cette manière. C'est horrible. C'est la honte. Et du coup, bah, Jean-Luc Gassat a été limogé de son poste de sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Putain, je vais y arriver. Et juste après, il est allé où, le petit papy Gassé ?
Il est allé à Marseille.
Les gars, à ce moment-là, on n'avait pas de coach. Benadji, il a attrapé son téléphone, il a dit « Tu es ma seule chance. » Et bah, et moi bien. Papy Gassé, il nous a emmenés jusqu'en demi-finale d'Europa League, d'accord ? Bon, après, on s'est fait taper par l'Atalanta, mais l'Atalanta est championne d'Europa League. Ils ont gagné l'Europa League après. Donc, bref, après la suite, on la connaît, voilà. Parcours, non-stop, sans faute, et champion d'Afrique, voilà. Le fait que la Côte d'Ivoire ait réussi à devenir championne d'Afrique, c'est une folie. Parce qu'en plus, dès qu'ils ont été repêchés et qu'ils ont commencé à... Enfin, non, pas dès qu'ils ont commencé à gagner, c'est faux. Moi, en fait, quand... En fait, c'est ça. Je vais retrouver mes mots, là. Quand l'Algérie s'est fait éliminer...
Oui, l'Algérie, championne d'Afrique 2019,
vu qu'on se raccroche qu'à ça. L'Algérie a été éliminée en phase de poule. On a fini dernier. On est reparti avec 0 trophée. Les gars, on a perdu contre la Mauritanie, une équipe qui n'a jamais gagné un match de Coupe d'Afrique, et une équipe qui n'a jamais gagné contre l'Algérie. En fait, nous, je sais pas. C'était un match qui était cataclysmique, qui était honteux. L'attitude des joueurs était honteuse. L'attitude de tout le monde était honteuse. On était nuls. On était ridicules à demander la VAR à chaque seconde. Hey, joue au foot ! Oh ! Au lieu de demander la VAR, joue au foot ! Possible, ça. Bref, pardon. Donc, je disais, après que l'Algérie se soit fait éliminer de manière honteuse contre la Mauritanie, moi, j'ai dit, je vais mettre ma pièce sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Je vais mettre ma pièce sur eux. Voilà, c'est le pays de Didier Drogba. Voilà, j'ai envie que la Côte d'Ivoire gagne. Voilà, j'avais envie. Franchement, j'ai dit la Côte d'Ivoire, j'ai dit aussi... j'avais dit le Congo aussi. Voilà, parce qu'il y a Chancel Mbemba là-bas. Là, j'aime bien Chancel Mbemba. Bon, là, actuellement, c'est un peu compliqué avec l'OM, mais quand même. Voilà, mais franchement, premier degré, j'ai dit la Côte d'Ivoire, je mets ma pièce sur eux.
Force est de constater que voilà quoi, mes prédictions ne sont pas toujours aussi désastreuses que ça.
Parce que moi, alors, mes prédictions, j'en fais jamais parce que c'est toujours catastrophique. Je me trompe toujours. Non, pas toujours. Je veux quand même sauver mon honneur, mais c'est quand même souvent pas glorieux. Avec tout ça là, j'ai toujours pas parlé des groupes de la CAN. Alors, donc j'ai dit le Maroc, enfin le match d'ouverture, ce sera Maroc-Comores. L'Algérie, elle se retrouve avec son meilleur ami, le Burkina Faso, avec la Guinée équatoriale et le Soudan. Je vous jure, les gars, on a le pire groupe, le Burkina Faso. Alors, à la limite, le Soudan, peut-être que voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un CAN 2023 plus au bis, parce que on a le Soudan qui est une petite équipe et qui à première vue ne fait pas peur, alors que bah nous on pue la merde, donc on va forcément peut-être se faire chicoter par eux. Il y a la Guinée équatoriale qui est une équipe qui me fait peur, voilà, et il y a le Burkina Faso qui veut pas nous lâcher la veste, qui veut pas nous lâcher. Lâchez-nous, on a compris le Burkina Faso, c'est bon, on a compris, lâchez-nous, c'est bon. Les Burkinabés, on a compris, c'est bon. Vous voulez jouer encore? On va jouer. Allez, énième match nul, c'est bon. Moi je vous le dis, Algérie Burkina Faso, c'est un match nul. Guinée équatoriale, je suis pas convaincue, franchement, je veux pas vous mentir, je sais pas si on gagne ce match. Et le Soudan, j'ai pas envie de me prononcer parce que je vais jinx. Voilà. Peu importe ce que je vais dire, je vais jinx. Donc le Soudan, j'ai pas envie de me prononcer. Il y avait un autre groupe qui était intéressant. Laissez-moi le retrouver. .. Ah, il est là. Alors, Sénégal, Congo, Bénin, Botswana. Alors, la folie. Sénégal, Congo. Les gars. Ah, c'est le football. Le football est de retour. Oh là là. Franchement, c'est un groupe de fou lui aussi. Il y a un autre groupe qui était bien. Oh, les gars, le groupe F, c'est quelque chose quand même. Hein. Le groupe F, c'est quelque chose aussi. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Les gars, Côte d'Ivoire, Cameroun. Déjà, je vais revoir Aubameyang s'il est sélectionné avec le Gabon. Ça va me faire plaisir. Mais les gars, Côte d'Ivoire, Cameroun. En fait, j'ai hâte de la CAN. En fait, je suis pressée. Alors, mon prono,
Déjà pour l'Algérie, j'ai pas envie de dire qu'on passe pas parce que j'ai pas envie de pas passer, mais je pense qu'on finit troisième à tout casser. Je préchote qu'on finisse troisième. Ah oui, après il y a le groupe, le groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Je pense que l'Égypte finit première sans grosses difficultés. Franchement, eux ils ont free win. Franchement, j'ai... après l'Angola a fait une bonne canne à la dernière édition. Ils ont fait une bonne canne, ils ont fait un beau parcours. Alors que c'était parmi les surprises. Hein. Donc non, chapeau à eux. Alors ensuite, il y a le groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. C'est des groupes qui sont assez c'est assez équilibré en vrai. Hein. C'est assez équilibré. Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Je dirais Nigeria première. Hein. J'irais Nigeria première. Ouais. Sachant qu'en plus, c'est les finalistes, il y a beaucoup d'attentes. C'est les finalistes de la dernière édition contre la Côte d'Ivoire. Donc, je m'attends à ce qu'ils finissent premier. Ensuite, le groupe D, Sénégal, Congo, Bénin, Botswana. Qui va finir Qu'est-ce qu'ils avaient fait le Sénégal à la dernière édition? Je sais plus du tout. Je sais plus du tout, mais Sénégal, c'est fort quand même. Donc, j'ai un petit doute là. Qui pourrait finir premier? Peut-être je vais mettre ma pièce sur Sénégal. Allez, Sénégal premier. Et le groupe F. Ah putain, le groupe F. Le groupe F. Ah, j'ai la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, parce que j'aime bien les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, j'aime bien l'équipe de foot ivoirienne. Je l'aime bien. Donc, je dis la Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est mes pronos. Voilà, vous notez ça. Ça se trouve, je vais flop. Je pense que je vais flop. Parce que généralement, j'aime bien. Ah, j'ai pas dit pour le groupe A. Maroc, Mali, Zambie, Comores. Le Maroc finit premier du groupe, je pense. Mali, Zambie, Comores. Oh, c'est un groupe déséquilibré, ça, je trouve. Ça, je me rappelle les vannes sur le Mali, pardon. Les Maliens, ils ont pris cher pour rien. C'est pas chance avec les Maliens, c'est grave. On se voit le 21 décembre 2025. Hein. Notez ça dans vos agendas. Je vous jure que même si vous suivez pas le foot africain, je vous promets que ça vaut le coup. Regardez la CAN 2025. C'est divertissement assuré. C'est... En fait, même si c'est des équipes qui, à première vue, vous paraissent pas incroyables, je jure quand vous allez vous pencher dessus, vous allez être surpris. Je vous conseille fortement de regarder la CAN. On a assez parlé de foot. À part si j'ai pas d'autre chose à dire sur la CAN, je crois pas que j'ai autre chose à dire sur la CAN. Je crois que j'ai tout dit. Vous savez, là, je suis en train de... J'ai passé en revue les équipes qualifiées, là, encore une fois. Il y a même pas la Mauritanie. En fait, il s'est passé quoi dans nos têtes l'année dernière? Enfin, pas l'année dernière, la dernière édition. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? La honte. D'ailleurs, j'en reviens pas. Eh bref, pas autre chose là, parce que j'ai pas envie de parler des Algériens là. J'ai pas envie. À sortir du foot. On a assez parlé de foot. On a quand même passé. J'ai passé quand même une heure là d'enregistrement à parler de foot. On va parler du rugby. Et oui, parce que ce soir il y a le match France Pays de Galles. Ça va être cool parce que il y a plein de nouveautés vraiment, pour ces six nations. Il y a des joueurs qui reviennent. Il y a des nouvelles règles. Il y aura peut-être des petites surprises. Parce que il y a des prédictions. Il y a pas mal de prédictions qui prédisent soit l'Irlande gagne, soit la France gagne. Déjà, je vais vous expliquer ce que c'est les six nations, parce que ça peut être un peu bizarre comme concept. Je vais vous expliquer ça. En gros, les six nations, c'est un tournoi de rugby qui est annuel et qui oppose l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, la France et le Pays de Galles et l'Italie. Chaque équipe va jouer les autres équipes de la compétition, donc ça fait un total de 5 matchs par équipe, et ça sera soit 3 matchs à l'extérieur et 2 matchs à domicile, soit l'inverse, ça dépend des années. Et le vainqueur est désigné par un système de classement, donc il n'y a pas de phase finale avec demi-finale, le quart de finale, finale, tour, c'est un classement, voilà, et c'est un système de points. Le système de points, si vous voulez prendre une petite feuille et noter... Non, en vrai, c'est pas si compliqué que ça, mais peut-être qu'il y aura un petit peu beaucoup d'infos pour ceux qui suivent, pas du tout le rugby. Donc, asseyez-vous, s'il vous plaît. Donc, pour une victoire, c'est 4 points. Pour un match nul, ce qui est très rare en vrai, mais ça arrive, ça peut arriver. Si c'est vraiment un match serré, c'est 2 points. 0 point pour une défaite. Ensuite, il y a les points bonus, donc offensif ou défensif. Le bonus offensif, il s'obtient si tu marques 4 essais ou plus lors d'un match, et c'est 1 point. Et le point bonus défensif, et quand tu perds contre une équipe, mais que l'écart de points est égal à 7 ou inférieur à 7. Et c'est un point aussi. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle le grand chelem. C'est quand tu gagnes tous tes matchs. Tu gagnes tous les matchs et t'as 3 points supplémentaires. C'est celle qui finit première, qui remporte les 6 nations. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de phase finale ou que sais-je. C'est pas un truc d'élimination ou quoi. C'est juste un classement. Les tenants du titre actuel, c'est l'Irlande. Et c'est même, encore une fois, les favoris maintenant. Et il y en a beaucoup qui les prédisent comme les vainqueurs encore cette année. Mais...
on est là aussi et on va pas se laisser faire. Parce que je vous assure qu'on a une bête d'équipe. On a vraiment une équipe de haut niveau. Bon, encore haut déjà de 1, mais on a aussi un sélectionneur qui est un peu... Voilà quoi. Mais on a une bête d'équipe quand même. Et ça, c'est pas à négliger. On a vraiment une génération qui mérite d'avoir du palmarès, en fait. On n'a pas assez de palmarès pour une génération aussi talentueuse que celle qu'on a maintenant. Le match de ce soir, c'est France-Pays de Galles. Et en vrai, je pense qu'on peut s'en sortir. Parce que là, d'après la forme actuelle du Pays de Galles, c'est pas la forme. C'est vraiment pas la forme. Ils ont perdu leurs 6 derniers matchs. Les 6 derniers matchs contre la France, ils les ont perdus. Même leur dernier match, c'est pas la folie. Donc je pense que ce soir, ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. Maintenant, ce qui est chiant chez nous, c'est qu'on a beaucoup de... On a beaucoup de blessés, on a beaucoup d'absents. Par exemple, on attendait le retour de Damien Penaud parce que il devait revenir. Il a pas participé au tournoi d'automne parce qu'il s'était blessé. Non, il s'était pas blessé, il était tombé malade, je crois. Et bien là, malheureusement, bon, il va pas manquer toute la compétition, mais il va manquer le premier match. Et c'est bête, en vrai. Mais après, je me dis, en soi, on va l'avoir pour des plus gros matchs. Donc, en même temps, je suis dégoûtée parce que je voulais le revoir. J'aime beaucoup Damien Penaud, c'est une valeur sûre à chaque fois. Donc, et puis, comme on l'avait pas vu au tournoi, moi, je l'attendais de pied ferme, là. En plus, il est vraiment archi performant avec Bordeaux. Je crois que au dernier match en Coupe d'Europe, il a marqué 6 essais, je crois. C'est un malade mental, ce garçon. Il y avait aussi Louis Bielbarré qui, au bout d'un moment, était annoncé incertain. Je crois qu'il avait des vertiges, un truc comme ça. Et franchement, déjà, ça m'a inquiété. En fait, Louis Bielbarré, c'est un joueur que j'adore, mais il me fait peur. En fait, il me fait peur parce que c'est un joueur qui donne tellement tout. Il est super jeune en plus. C'est un joueur qui donne tellement tout sur le terrain que des fois, j'ai envie de l'attraper et lui dire « Tu peux te calmer, s'il te plaît ?» Tu sais, à la fin, si tu gagnes pas, tu vas pas exploser, genre. Tu vas pas... Il me fait un peu peur, ce garçon. Mais c'est bien d'avoir des jeunes investis comme lui. En plus, il est tellement doué, il est super rapide. C'est une fusée. Donc, non, franchement, Bordeaux, ils ont de très très bons joueurs. Bon, on va pas parler du Stade Toulousain et l'autre, là, l'OVNI, là. Évidemment, en capitaine, on a El Famoso, l'OVNI, Jujujul, Antoine Dupont. Lui, c'est... Il y avait eu un débat, je crois, avec... En fait, c'était plus un débat sur son temps de jeu cette saison, parce que en fait, il a alterné avec... En fait, l'année dernière, c'était un peu quoi ? C'était la zizanie, c'était le cercle du soleil. Vraiment, il était sur tous les fronts. Il a fait le rugby à 7, il a fait les Jeux Olympiques, il a fait la Coupe d'Europe, il a fait le top 14. C'est un peu n'importe quoi. Donc en fait, au début de saison, il a pas beaucoup joué, parce qu'on lui a laissé plus de temps que les autres de vacances, parce que il a fait les Jeux Olympiques, donc forcément, il a été coupé de quelques temps de vacances. Et en fait, il y a eu beaucoup de discussions autour de son temps de jeu. Il y a eu... de son temps de jeu et de sa gestion, enfin, en général. Est-ce que la gestion de la part du Stade Toulousain, elle est correcte ? Est-ce que celle de la part de l'équipe de France, elle est correcte ? Est-ce qu'on le fait pas un peu trop se reposer ? Est-ce que... Enfin, il y a un tas de discussions comme ça. Et aussi, ça faisait... Je crois que ça faisait 2 ans. 2021, il y est pas... 2024, je vais y arriver, il y est pas allé. Donc ça fait depuis l'édition 2023 qu'on l'a pas vu aux 6 Nations. Donc c'est un retour pour lui. Et il y a aussi le retour de El Famoso, Romain Tamac. Lui qui s'est blessé au genou, je crois, oui, c'est ça. Il s'est blessé au genou et je crois qu'on l'a pas vu en équipe de France. Il n'a pas été sélectionné c'est pas qu'il n'a pas été sélectionné, il était blessé en 2023. Donc ça fait depuis les 6 Nations 2023, I guess. Alors attendez, je vous ai dit de la merde parce que Antoine Dupont, on l'a vu pendant la Coupe du Monde 2023. Donc ça fait, on va dire, depuis la Coupe du Monde 2023 qu'on l'a pas vu en bleu. Moi, je parlais surtout des 6 Nations. Mais en tant que genre en équipe de France, Romain Tamac, ça fait depuis les 6 Nations 2023, je crois bien qu'on ne l'a pas vu, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Donc on a le retour d'une charnière que beaucoup adorent et qui est absolument imprenable. À savoir la charnière Dupont-Ntamack qui va faire des ravages, je l'espère. Petite mention spéciale à Noah Néné, qui est le seul joueur de Pro D2 à être sélectionné en équipe de France actuellement et qui joue à l'US Dax. Je tiens à vous dire d'ailleurs que même si la Pro D2, c'est la deuxième division de rugby professionnel, eh bien, sachez que la Pro D2, c'est un championnat archi relevé et qui est, je pense, même soit autant, soit plus relevé que le championnat anglais. Voilà, c'est pour vous donner un petit équivalent. En fait, nos championnats en France sont tellement relevés
que... En fait, il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi on n'a pas un palmarès qui le reflète en équipe nationale. Et c'est ça, c'est un problème que beaucoup soulèvent. Et tout est dans la gestion, en fait. Tout est dans la gestion de l'effectif, de l'entraînement aussi, enfin, de l'entraînement de l'entraîneur. Enfin bref, c'est plein de... Parlons d'entraîneur. En parlant de sélectionneur, Fabien Galthié, donc, notre petit sélectionneur de l'équipe de France, a décidé de faire un petit choix qui a fait parler, voilà. Je pense qu'il est en soif de buzz, voilà. Je pense qu'il aime le buzz, c'est une petite attention seeker. Moi, je pense qu'il aime l'attention, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a décidé de sélectionner les deux rugbymen qui étaient accusés de plein de choses en Argentine, de quelque chose de pas très gentil en Argentine, à savoir Hugo Oradou et Oscar Jégou. Voilà, il les a resélectionnés. Alors que c'était à peine il y a quelques mois. Voilà, l'affaire n'est même pas encore finie d'ailleurs, je crois, parce que, alors oui, il y a eu un non-lieu qui a été prononcé, mais la fille en question a fait appel, enfin la victime, je crois, a fait appel, donc ils doivent retourner au tribunal le 10 février, donc l'affaire, pour moi, n'est pas terminée. Enfin, en fait, même si l'affaire était terminée, même si Lago n'avait pas fait appel, même si la victime n'avait pas fait appel, comment, en tant que sélectionneur, tu te dis que deux jeunes, parce que c'est deux jeunes, ils sont très jeunes, hein. L'autre, il a quel âge? C'est un 2003, il a mon âge, et l'autre, c'est un 2003 aussi, il a mon âge. Donc, c'est deux 2003, les gars. En fait, comment, en tant que sélectionneur, t'as 57 ans dans ton crâne, là, tu te dis, oh, les deux petits jeunes, là, qui ont fait de grosses bêtises en Argentine la dernière fois qu'on y est allé? Je vais les reprendre. En fait, quel message tu transmets au public et aux médias, aux joueurs, aux jeunes joueurs? Tu transmets quoi comme message? Tu transmets tout simplement le message que tu peux faire absolument ce que tu veux tant que t'es un petit peu fort et encore. Parce que Oscar Jégou, à la limite, je l'ai vu jouer parce qu'il est à La Rochelle, malheureusement. Bon, moi, c'est pas parce qu'il est à La Rochelle que je vais le défendre. Hein, vous croyez quoi? Bref. Parce que moi, je supporte La Rochelle, pour ceux qui ne le savent pas. C'est pas parce qu'il est à La Rochelle que je vais le défendre. Moi, je ne suis pas dans le clubisme. D'accord? S'il y a bien une chose que je déteste, c'est le clubisme. D'accord? Soyez un peu objectif dans vos propos. S'il vous plaît, je suis un jeune. Bref. Oscar Jégou, à la limite, c'est un bon joueur. C'est une petite valeur sûre, c'est un jeune, voilà. À la limite, je comprends. Enfin, je comprends pas. Mais sportivement, on va dire, je comprends. Mais Oradou, bon, bref. Je comprends pas ce choix, je suis pas d'accord, moi personnellement je les aurais pas sélectionnés, mais alors là pas du tout, et en fait je trouve que c'est dommage parce que ça fait tache en fait sur une génération dorée comme celle-là, et voilà, c'est dommage parce que moi j'avais hâte, je vais quand même regarder, mais ça va faire tache, peut-être qu'ils vont pas jouer, mais ça va faire tache, il y aura un petit malaise, je vais ressentir un petit malaise, je suis désolée, ce sera plus fort que moi. Enfin, bref, assez parlé de cette histoire, malheureusement on ne peut pas y faire grand chose, le choix est fait. Ceci étant dit, je pense, ça c'est mes prédictions, mais je pense que la France a ses chances. On est en tout cas les favoris de la compétition actuellement, c'est l'Irlande parce que c'est l'étonnant du titre, en plus ils sont dans une forme, une très très grosse forme, et nous, voilà, nous franchement on est les favoris, hein. Le France-Irlande, franchement, asseyez-vous, franchement, dinguerie, préparez-vous, le France-Irlande, ça va se taper dessus. Ensuite, moi j'aurais pris... Ouais, en fait, c'est ça. En fait, les favoris, j'aurais mis France-Irlande. Les moins favoris, genre les plus nuls, entre guillemets, j'aurais mis Pays de Galles et Italie. C'est compliqué pour les Italiens. Ah, ils commencent un peu à revenir un petit peu, mais c'est... Voilà. Et les deux autres, Angleterre-Écosse. En vrai, Angleterre-Écosse, c'est mid. C'est pas nul, mais c'est mid, vous voyez. Ah, pourrait faire mieux. Enfin, bref. Est-ce que je préchote que la France va probablement gagner les Six Nations? Ça serait bien, ce serait incroyable, je sauterais de joie. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir rivaliser avec les Irlandais? Je le souhaite fort, parce que les Irlandais, vous me saoulez. Mon feng, j'ai failli conclure, alors que je vous ai même pas parlé des nouvelles règles qu'ils vont instaurer pendant les Six Nations. Attendez, oh là là, j'enfile mes lunettes d'intello. Alors, il y aura un total de 5 nouvelles règles. Alors, le rugby, c'est chiant, parce que le rugby, il y a tous les jours des nouvelles règles, et les gens n'arrivent pas vraiment à suivre. Donc, je vais vous expliquer du mieux que je peux les nouvelles règles qu'ils vont instaurer dès ce tournoi des Six Nations. Premièrement, il y a le fameux carton rouge de 20 minutes qu'ils ont évoqué au dernier tournoi, avant le début de la saison, enfin... Au début, j'étais pas convaincue. Je le suis toujours pas. Parce qu'en fait, il faut voir ça un peu comme un carton au rang. Voilà. Ce sera un carton qui sera attribué à des fautes qui sont un peu similaires à des fautes qu'on peut retrouver pour un carton jaune, par exemple. La différence qu'il y aura avec un carton rouge ordinaire, c'est que déjà, le carton rouge ordinaire, il restera en vigueur. Mais en gros, ce sera 20 minutes, comme c'est indiqué. En gros, pendant 20 minutes, on est à 14. Et au bout de 20 minutes, il y aura un autre joueur qui pourra venir remplacer. Alors, ce sera pas le joueur qui a été exclu, bien évidemment. Ce sera un autre joueur du banc. Et c'est pour ça que, en fait, ils ont instauré ce carton rouge pour enlever le carton. Enfin, ils l'ont pas enlevé, mais du moins pour éviter de toujours mettre un carton rouge qui, du coup, déséquilibre le match. En gros, c'est pour éviter de trop déséquilibrer les matchs. Ouais. Je suis pas convaincue parce qu'à la limite, tu vois, un carton rouge, en fait, c'est ça, c'est le but d'un carton rouge, c'est de, on va pas se mentir, déséquilibrer les matchs. Alors oui, il peut y avoir des cartons rouges qui sont injustes et là, pour le coup, bah, c'est chiant. Mais après, peut-être que c'est pour éviter ça. Peut-être que c'est pour éviter justement ce genre de situation de carton rouge trop vite dégainé, injuste. Mais du coup, en fait, j'ai peur que les arrêts de jeu soient encore plus longs parce que imaginez, ils doivent regarder les vidéos pour voir si c'est un carton rouge ou un carton rouge de 20 minutes ou un carton jaune ou machin. Bon, après, bon, je pense que le débat ne sera pas entre un carton jaune et un carton rouge. Enfin, quoique si. Bah si, du coup, il y aura un débat entre les trois cartons. Oh, yeah. Bon, ouais, je suis pas convaincue. Ensuite, la deuxième règle, ça concerne les numéros 9, donc les demi de mêlée, qui, du coup, seront beaucoup plus protégés et qui, du coup, ça fluidifiera le jeu et ça les protégera en même temps parce que, en fait, ils sont très sollicités, c'est logique. Et, en gros, pour ceux qui savent pas, les numéros 9, c'est un peu ceux qui guident le jeu, c'est eux qui mènent la danse, en fait. C'est eux qui mènent la danse. Et ils sont très sollicités dans les rucks, les mauls, les sorties de mêlée. C'est leur job. Ils sont dans le bazar, là. Vous voyez? En fait, là, j'essaie d'expliquer pour des gens qui ne regardent pas le rugby. Vous voyez quand il y a un bazar, là? Quand il y a des joueurs qui sont un peu... Genre, qui s'attrapent et qui bougent en même temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En bref, ils sont un peu dans le bazar du jeu. Et du coup, bah, pour les protéger, il y aura des nouvelles règles. Enfin, des sanctions plus sévères, on va dire. Voilà. Mais en gros, cette règle, c'est pour encourager... Enfin, c'est pour faire en sorte que le jeu soit plus propre, en fait. Pour que ce soit moins le bazar. La troisième règle, en fait, c'est pas vraiment une règle, c'est plus une innovation technologique. C'est le fait que les arbitres... Et ça, je le savais pas. Enfin, c'est pas que je savais pas, c'est que tu m'en étais pas forcément rendu compte. Les arbitres, on les entend pas dans le stade. On les entend à la télévision parce qu'ils ont un micro, mais on les entend pas dans le stade. Et ben là, ça va changer. Maintenant, on va les entendre en train de prendre leurs décisions dans le stade et après, ils vont expliquer leurs décisions, etc., etc. Comme ce qu'ils veulent faire au foot depuis des années, mais qu'ils ne font pas. Parce que on n'a pas de sous. Tu nous fais passer pour des clochards, la brune. Eh bien, c'est bien. Quatrième règle, c'est le fait que les buteurs, donc les numéros 10, n'ont plus que 60 secondes pour tenter leur transformation contre 80 secondes auparavant. Le temps sera réduit aussi pour la formation des mêlées et des touches qui sera de 30 secondes. Vous savez pourquoi ils réduisent le temps des trucs comme ça, là, des petits détails. Enfin, c'est même pas des détails, mais vous voyez pourquoi ils réduisent le temps comme ça? C'est à cause du rugby à 7. Je vais vous dire pourquoi. Le rugby à 7, c'est une discipline qui est très rapide. Ça va très vite, vraiment, en fait c'est du rugby à 7 contre 7, donc c'est très rapide, il y a beaucoup de courses, beaucoup de percées. Et en fait le rugby à 15, ils ont vu le succès du rugby à 7, que le rugby à 7 a eu l'année dernière, pendant les Jeux Olympiques, pendant les tournois, etc. Le fait que la France en plus ait gagné le championnat du monde, les Jeux Olympiques, etc. Ça a eu un succès monstre et du coup ça a eu son influence sur le jeu du rugby à 15. Les joueurs sont de plus en plus engagés à jouer vite les ballons. Et cette nouvelle règle, ça illustre juste la volonté du rugby à 15 de s'améliorer sur ce détail. Malheureusement, c'est un détail qui a son importance parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de ça. Il y a les arrêts de jeu qui prennent beaucoup de temps, les formations de mêlée, les formations de la touche, le temps que le buteur il se décide à taper sa transformation parce qu'il patiente un petit peu, parce qu'il veut laisser ses compagnons se reposer un petit peu, je le comprends. Mais voilà, il faut jouer vite, il faut enchaîner. Là. Beaucoup qui se plaignent de ça dans le rugby à 15, c'est que c'est un sport qui peut, avec tout ça, devenir un peu chiant. Ouais, ça peut être un peu chiant, ouais. Et enfin, mais ça c'est encore une innovation technologique, c'est le Touch Finder, c'est en gros comme une petite puce dans le ballon. Je crois qu'il y a aussi ça au football. En gros, ce sera un détecteur qui montrera précisément où le ballon est sorti pour les touches et tout ça. Là. Et bien voilà, vous avez toutes les règles. J'espère que j'ai été claire, parce qu'en vrai c'est un peu compliqué d'expliquer des nouvelles règles d'un sport où les gens ne comprennent déjà pas le sport de base. Donc j'espère que ça a été informatif, j'espère que vous avez compris, j'espère que ça vous a peut-être donné envie même de regarder les 6 nations. Si ça vous a donné envie, franchement, contente. Ça sera diffusé sûrement sur France Télévisions ou sur TF1, ça dépend. Mais en tout cas, c'est en clair. Donc, de toute façon, les matchs de l'équipe nationale, peu importe le sport, c'est toujours en clair, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, voilà. Et aussi les 6 nations des U20, voilà. je le rajoute dans le truc. Donc voilà, je pense que c'est une bonne façon de conclure cet épisode. Voilà, je pense que c'est mon épisode le plus long. 1h30 d'enregistrement, je ne sais pas comment je vais faire. Les gars, je suis dans une merde, mais vous pouvez pas savoir. Bon, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aimez ce format, même si il est un peu long. Je trouve qu'il est long, je le ferai pas tout le temps, je pense que je le ferai vraiment quand il y a des infos intéressantes et importantes. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, à mettre les notifications si c'est pas déjà fait, à noter mon podcast parce que ça m'aide énormément pour l'algorithme, c'est très important. Et voilà, c'est tout. Et faites la promo aussi. Faites la promo pour mon podcast. Non, je plaisante. Et vraiment, dites-moi si ça vous a plu ce genre de format, même si c'est un peu long. Comme ça, au moins, enfin, si ça vous plaît pas. En vrai, moi, ça me plaît en cas de parler de news comme ça qui me fascine. Je fais apprendre un peu aux gens pour ceux qui sont curieux, pour les connaisseurs qui connaissent déjà. Bon, ça fait beaucoup d'explications qu'ils connaissent déjà, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et puis voilà. La prochaine fois, au moins, si je reparle de ces sujets-là, j'expliquerai plus brièvement. Je pense pas que je vais réexpliquer de manière aussi détaillée. Mais voilà, comme c'est la première fois que j'en parle ici, bah, je me suis dit, écoutez, je vais parler calmement pour tout le monde. Je vais faire de mon mieux pour que tout le monde se sente inclus. Et voilà, moi, c'est la priorité de mon podcast. C'est que tout le monde puisse écouter, même si vous vous y connaissez. Allez, j'ai essayé de faire une intro stylée, bienveillante et tout. Mon cerveau, il a dit non, vas-y, quête-moi ça. prenez soin de vous, buvez de l'eau, dormez bien, faites des activités physiques, traînez pas trop sur les écrans, marchez un petit peu, tout ça, vous connaissez, voilà. Bisous!